Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à nouveau dans cette deuxième partie de notre formation où nous allons élaborer davantage sur le concept de votre modèle d'affaires avec l'adaptation et l'inspiration du concept du BMG, Business Model Génération. Hein? Alors, je m'en viens pas pire avec mon expression. Alors, on a vu, vous vous souvenez, dans la première partie, on a vu c'est quoi la différence entre un plan et un modèle d'affaires. On a regardé à quoi va servir votre plan d'affaires. On a regardé quand est-ce qu'on doit faire un plan d'affaires, les quatre grands volets que vous devez considérer dans votre plan d'affaires et le cœur de vos activités. Quand vous vous souvenez, dans l'organigramme, je vous ai fait une représentation du cœur de vos activités dans votre organigramme, qui est votre modèle d'affaires. Et justement, dans cette deuxième partie de la formation, on va venir justement regarder votre modèle d'affaires, je m'excuse, bloc par bloc, à partir du concept du BMG. Alors, on va regarder tout de suite, vous avez, n'oubliez pas, en toujours votre guide du participant, vous allez voir probablement à quelque part des diapos qui vont se présenter parce que la deuxième partie, elle est plus imagée parce que là, on parle de bloc par bloc, mais dans le fond, ce que je veux faire, c'est de vous apporter des pistes de réflexion pour chacun des blocs de la maquette du canevas BMG de votre modèle d'affaires. Alors, on commence tout de suite par le premier bloc où on parle de la segmentation de votre clientèle. Donc, le segment client, et là, je vous emmène en rafale le type de réflexion, puis je vais tenter de vous donner des exemples à la réflexion que vous devez apporter pour chacun des blocs. Alors, quand on parle de segment de la clientèle, on va parler de niche, on va parler de créneaux spécifiques. Et ça, dans le monde des affaires, peu importe, notre industrie change, peu importe comment on évolue dans notre marché. En marketing, on nous l'a toujours dit, ça n'a pas changé. De vouloir essayer de convaincre tout le monde puis la planète entière, ben vous finissez par convaincre personne. De nicher, de choisir un créneau, de choisir un segment pour votre offre de service, ça vous donne vraiment plus d'avantages ou plus de facilité, je vais dire, plus de facilité pour pouvoir vous positionner, vous démarquer, que ce ne serait-ce que pour définir votre langage de communication quand vous allez vouloir offrir vos services. Donc, si on parle de segment client dans le bloc numéro 1, vous allez vous poser les questions, par exemple, pour qui voulez-vous créer de la valeur? Pour qui voulez-vous créer de la valeur en termes de compatibilité, en termes de compatibilité avec votre vision, avec votre raison d'être, avec vos valeurs et aussi compatibilité avec votre plan financier. Donc, c'est important ce que je vous dis là parce que vous avez le droit de choisir votre clientèle. Donc, pour les nouveaux qui m'écoutent, vous allez me dire, bon, tu sais, Louise, là, si j'ai une chance de faire une transaction, j'ai-tu vraiment le choix? D'abord, il faut que je vous dise une parenthèse. Moi, dans ma vie, OK, à un moment donné, j'ai eu longtemps la pensée que je n'avais pas le choix ou il s'est passé des choses que je me suis dit non, plus jamais, OK, je n'aurai pas le choix. Maintenant, j'ai toujours le choix. Bon, je ferme la parenthèse, c'est une philosophie. On a toujours le choix dans la vie. Sauf que je vous comprends, quand on est nouveau, qu'on a des dépenses, puis que là, bon, l'insécurité financière de prendre le client qui n'est pas nécessairement dans votre cible, je peux très bien comprendre. On va se donner la raison, par exemple, que c'est parce que vous êtes en train de vous faire les dents, de prendre votre expérience avec une clientèle qui n'est pas nécessairement la clientèle cible pour laquelle vous allez vouloir offrir de la valeur. Et c'est correct comme ça. Il y en a pas tant que ça, finalement, que je me rends compte sur le terrain, il n'y a pas tant de professionnels qui ont choisi de travailler avec une clientèle cible. Dans notre milieu, dans notre environnement, on va voir plus souvent, quand on parle de clientèle cible, on va parler de secteur géographique, on va parler de secteur ferme. D'ailleurs, il y a une formation expressément, il y a une vidéo de formation expressément sur le marketing ciblé votre secteur ferme. Donc, ici, dans le modèle modèle d'affaires. Je vais vous parler en général de votre clientèle cible parce que il y a des courtiers immobiliers, des professionnels qui vont choisir de travailler pour un créneau spécifique. Un exemple, des travailleurs autonomes ou qui vont travailler peut-être plus avec des investisseurs dans l'immobilier ou qui vont travailler peut-être plus avec des gens qui sont d'un certain âge, qui sont prêts à vendre leur propriété, qui vont vouloir se reloger. Là, on parle de créneau spécifique. Peu importe, vous allez devoir vous poser la question quand vous allez choisir, quand vous allez être prête, quand vous vous sentez à l'aise de dire ou que vous allez comprendre l'importance ou la nuance, OK, de travailler avec une clientèle cible plus qu'avec la planète entière. Vous allez devoir réfléchir sur pour qui vous allez vouloir créer de la valeur. Et quand vous avez cette réflexion, vous êtes en train de vous choisir votre clientèle idéale, puis vous trouvez pas ça extraordinaire de vous réveiller le matin puis de savoir que vous allez travailler juste avec votre clientèle idéale. Encore une fois, je le sais, bon, même pour ceux qui ont de l'expérience ou ceux qui commencent, mais ayez en tête, c'est la raison pourquoi qu'on fait un plan, c'est la raison pourquoi on investit nos réflexions dans un modèle d'affaires, c'est pour se donner justement une chance de pouvoir se mettre en action, de pouvoir plus choisir ce que vous voulez puis ce que vous voulez pas dans votre business. Ensuite, à partir du moment où vous avez défini qui sera votre clientèle idéale, chercher à savoir quelles sont leurs caractéristiques démographiques. Alors, quand on parle de caractéristiques démographiques, on va parler de c'est quoi leur moyenne d'âge, c'est quoi leur statut, est-ce que, bon, c'est plus des jeunes familles, est-ce que c'est des familles avec, des enfants qui sont proches de l'adolescence, puis les parents vont penser vouloir vendre leur propriété pour aller vivre ailleurs, c'est quoi leur catégorie de revenus, par exemple? Vous avez d'excellentes ressources, par exemple, dans Centris pour venir voir toutes ces caractéristiques démographiques d'une clientèle, soit géographique, mais si c'est un créneau plus spécifique, je suis certaine que on trouve tout sur le web. De toute façon, vous allez être en mesure de trouver les informations que vous avez besoin. Et pourquoi en connaître davantage sur votre clientèle? Plus vous en connaissez sur votre clientèle, plus ça va être facile pour vous, justement, de pouvoir mettre en perspective votre proposition de valeur. Alors, combien sont-ils? Est-ce que vous avez suffisamment de clients potentiels pour la niche, la segmentation que vous avez choisie? Est-ce que vous avez suffisamment de clients potentiels pour que ce soit viable dans votre modèle? Hein, si vous vous rendez compte que ça va vous prendre un bassin de clients pour arriver à la rentabilité ou au chiffre d'affaires que vous voulez réaliser, il faut s'assurer que le nombre de clients le volume de clients potentiels est suffisant pour arriver à vos objectifs. De venir découvrir c'est quoi leur valeur à cette clientèle, c'est quoi leur qualité en général. Je pense à des courtiers immobiliers que je coach présentement qui travaillent plus un territoire géographique. Puis aujourd'hui, à cause du modèle d'affaires qui sur lequel ils se sont penchés, hein, sur lequel ils ont investi du temps, ils sont capables aujourd'hui puis au début, non, mais aujourd'hui, ils sont capables de plus définir pourquoi ils aiment travailler avec cette clientèle-là, parce qu'ils sont capables de venir voir c'est quoi leur valeur, c'est quoi leurs caractéristiques, c'est quoi leur personnalité, c'est quoi leur tempérament, et ça leur permet davantage de vouloir plus s'investir avec cette clientèle. En terminant pour, ben, c'est pas que je veux terminer, là, mais dans le fond, je veux vous laisser sur une réflexion par rapport à la valeur et à l'importance de choisir votre clientèle. Tentez de choisir les clients qui vous allument, que quand vous vous levez le matin ou que vous venez de terminer une semaine, vous êtes enrichi, que vous vous sentez évoluer autant personnellement que professionnellement parce que vous avez une clientèle qui a beaucoup de valeur à vos yeux. Alors, faites en sorte que votre segment de clientèle que vous choisissez puisse justement vous nourrir en termes de motivation, puis en termes d'évolution personnelle comme professionnelle dans votre vie de tous les jours. Cherchez à comprendre la nature de votre clientèle. Donc, qu'est-ce qui compte réellement pour votre client? C'est quoi ses principales préoccupations? Comment il s'y prend pour s'informer en matière d'habitation? qu'est-ce qu'il aimerait faire pour améliorer sa condition en matière d'habitation, comment il entreprend ses actions ou surmonte ses obstacles quand il planifie de faire des changements en matière d'habitation. Connaissez-vous son cycle de démangeaison? On sait que dans l'immobilier, les clients, propriétaires-vendeurs, particulièrement propriétaires-vendeurs, ils ont des cycles de démangeaison. Est-ce que vous le connaissez dans le temps? Est-ce qu'il y a un élément déclencheur qui vont faire que le besoin va plus se faire sentir, que le besoin de vous consulter va être plus évident? Donc, essayez de comprendre la nature de votre client. Pour vous donner juste un exemple concret de définir votre clientèle type, je vais vous faire la description client, jeune génération qui, en théorie, deviendrait votre futur client. Donc, on parle de 18 à 25 ans, par exemple. Puis, c'est peut-être même 25 ans, c'est déjà un client acheteur potentiel. La description que je vous fais, c'est un article que j'ai fait l'extrait d'un article dans votre revue Profession courtier en passant, à l'hiver 2014-2015, d'une spécialiste, je lis ici, là, d'une spécialiste, Madame Sandrine Promptet, qui est spécialiste en comportement du consommateur. Et elle nous explique que votre futur client, donc le jeune génération, qui est né, j'aime bien l'expression, qui est né avec le cordon ombilical branché sur le web mobile, c'est votre futur client qu'il faut être capable de considérer. Donc, quand on parle de comprendre sa nature, la spécialiste ici, Madame Sandrine, en fait une description. Et c'est la raison pourquoi j'ai trouvé approprié de vous le partager dans le cadre de cette formation. Donc, ce qu'elle nous dit, c'est pour cette génération de clients, il faut être là où ils sont. Donc, où sont-ils, pensez-vous? Alors, où sont-ils ou où seront-ils davantage à l'époque, au moment où ils vont vouloir justement penser à devenir propriétaire? Internet, bien entendu, donc le web marketing va être une ressource indispensable pour ce type de client. On nous dit aussi que vous allez devoir avoir une approche directe et rapide, d'être capable d'adopter un langage direct avec cette clientèle. Ils vont avoir besoin, ou ils ont déjà besoin, de se faire sentir unique, de se faire sentir vraiment unique dans leur personne, dans leur personnalité. Donc, d'être capable de personnaliser vos communications avec cette clientèle, d'être capable de miser le bouche à oreille, donc bien entendu les réseaux sociaux, les Facebook, d'être capable d'aller chercher les influenceurs, les ambassadeurs à travers leurs réseaux sociaux, d'être capable de leur démontrer que vous êtes un bon citoyen avec un comportement social et environnemental. Il y a une particularité que je trouve pertinente, qui revient aussi à une citation de Confucius. Alors, pour faire suivre la citation, je vais commencer par la citation. Alors, Confucius disait « Dis-moi et j'oublierai, montre-moi et je me souviendrai. » Alors, semble-t-il que cette future génération répond à cette citation. Et ce que ça veut dire, c'est qu'ils vont avoir besoin davantage que vous puissiez les faire participer aux efforts de recherche. Donc, vous allez avoir moins besoin de leur montrer comme une maîtresse d'école, mais beaucoup plus de les faire participer justement aux étapes de se trouver une propriété ou aux étapes de vendre une propriété. Donc, c'est un exemple qui a rapport avec la segmentation. Et pour terminer le premier bloc, je veux juste que vous puissiez retenir, pas que je veux, mais on nous influence, on nous dit et redit que de vouloir plaire à la planète entière, vous finissez par plaire à personne finalement, et que c'est important pour vous, dans votre intérêt, de pouvoir justement vous trouver une segmentation de clients, une niche client, pour être capable justement de pouvoir offrir des résultats remarquables parce que vous avez fait en sorte de pouvoir justement conceptualiser, modéliser votre modèle d'affaires, votre offre de service en fonction de ce type de client. Ça va comme ça. Alors, le premier bloc est très important. Le deuxième est aussi important. Ensuite, les autres blocs, Bon, c'est plus comme des réflexions ou des choses qu'il faut retenir, mais je vous dirais que dans l'ensemble des 9 blocs, moi, je considère que le premier et le deuxième sont plus lourds d'informations, mais aussi parce qu'ils sont, à mon humble avis, les deux plus importants. Donc, deuxième bloc, proposition de valeur. Dans la proposition de valeur, et là, tout de suite, je vais attirer votre attention sur une chose, ne pas confondre votre proposition de valeur à offrir une promotion, par exemple, un notaire payer, des frais payés, un déménagement. Quand on parle de proposition de valeur, on parle de vous. Hein, vous êtes le produit qu'on veut packager pour lui donner de la valeur pour être capable de se démarquer. Et pour pouvoir le faire, il faut que vous restiez en relation avec la clientèle que vous avez choisie. Donc, à chaque fois que vous allez réfléchir sur votre proposition de valeur, faites en sorte de venir voir dans la case à côté si ce que vous avez décrit comme clientèle dans votre clientèle cible, vous avez des chances de venir le rejoindre. C'est sûr, c'est certain que déjà dans notre industrie, avec nos organisations, nos ressources comme les chambres immobilières, l'OACQ, dans les dernières années, on fait les sommets de l'immobilier pour venir revoir justement les besoins du consommateur. Ça peut énormément vous aider pour venir justement asseoir, pour venir justement réfléchir dans votre proposition de valeur. Alors, vous pouvez vous servir justement ce que les organisations, vos ressources ont déjà élaboré comme proposition de valeur qu'on a, nous, dans l'industrie, comme professionnels de l'immobilier. Alors, les gens en général, ils veulent pas savoir ce que vous faites, comme exemple, bon, pour vendre votre maison, je vais l'annoncer, je vais la mettre dans les réseaux sociaux, la panoplie de toutes les actions. Oui, éventuellement, il va avoir besoin de le savoir, mais si vous voulez offrir votre valeur avant de signer un contrat de courtage, les gens, ils veulent savoir surtout d'entrée de jeu ce que vous pouvez faire pour eux. Et quand on parle de ce que vous pouvez faire pour eux, vous allez devoir avant définir c'est quoi leur défi. C'est quoi leur défi qu'ils ont à surmonter durant leur cycle de démangeaison. Exemple, quand c'est la première fois que je vends ma maison, parce que j'ai été un premier acheteur, puis c'est la première fois que je vends ma maison, ben j'ai pas les mêmes défis que quand c'est la deuxième puis la troisième fois. Je suis rentée, j'étais célibataire, là j'ai 2-3 enfants. Donc la marmaille dans le changement, je vais vivre comment? Ça a l'air drôle comme ça, mais si vous attirez votre attention sur plus comment est-ce que votre client vit sa situation quand il s'agit d'acheter ou de vendre que de juste offrir vos services pour encaisser votre rétribution, vous allez vraiment faire la différence. Donc pensez à quelle va être votre offre, celle qui justement promet votre valeur ajoutée suffisamment pour motiver votre client à sortir son portefeuille. Donc, ça va être quoi votre offre? Ça va être quoi votre valeur? Ça va être quoi qui va faire que vous allez être différent? Mais différent, pas pour être différent, mais comment vous allez faire pour vous démarquer? Puis, la façon de vous démarquer, c'est quand vous allez plus toucher justement la solution que votre client a besoin pour passer à l'action dans acheter ou vendre sa propriété. C'est quoi le bénéfice pour satisfaire le besoin de votre clientèle cible? Soyez convaincu de votre valeur et pour être convaincu de votre valeur, il faut être capable de venir revoir, si vous vous souvenez pas, ou de venir vous convaincre de vos avantages distinctifs en tant que professionnel de l'immobilier. Tantôt, je vous parlais de vos organisations, OACQ, Chambre immobilière, qui ont refait leur devoir dans les dernières années avec le sommet de l'immobilier pour venir revérifier auprès du consommateur c'est quoi ses attentes et qu'est-ce qui ferait qu'il va davantage choisir un courtier immobilier pour acheter ou vendre une propriété. Il y a 4 avantages distinctifs qui est ressorti de ces enquêtes, de ces études de marché que les organisations, les grandes organisations ont élaboré dans les dernières années. Donc, le premier, c'est puis vous devez les connaître. Vous devez déjà en pas. Ça ne devrait pas être quelque chose de nouveau. Hein? Mais sinon, si vous ne vous rappelez pas, de venir reprendre ces avantages distinctifs et de l'inclure dans votre proposition de valeur. Donc, le premier avantage, on va parler du fait que vous faites partie d'un réseau de courtiers professionnels dans l'immobilier. Le deuxième avantage, on parle que vous détenez une expertise pointue de par votre formation pour avoir obtenu votre certification. Et maintenant, vous avez l'obligation de suivre de la formation continue pour maintenir votre certification. Troisième chose, vous protégez essentiellement l'acheteur et le vendeur par la loi du courtage, un avantage quand même assez important. Le quatrième avantage, vous avez l'obligation de gérer la majorité des étapes du processus de vente, achat ou même parfois location pour la transaction de votre clientèle. Le cinquième avantage distinctif, c'est celui qui va faire que vous allez vous distinguer des 15 000, 12, 10, 13, 14 000, je ne sais plus à combien on est rendu de courtiers immobiliers au Québec, mais comment vous allez vous distinguer en tant que professionnel de l'immobilier? En vertu des besoins de votre clientèle, en vertu de la relation que vous voulez entretenir avec votre clientèle et aux yeux de votre compétition. Et pour cela, vous allez devoir trouver le cinquième avantage. Et le cinquième avantage, c'est qu'est-ce que vous pouvez faire en tant que professionnel de l'immobilier avec les quatre avantages distinctifs de votre organisation, de votre industrie. Alors, pour être capable de définir votre cinquième avantage, je vous ramène au haut de votre organigramme, être capable d'identifier la valeur de votre relation. Et souvent, on est plus capable d'identifier la valeur de notre relation quand vous avez défini votre vision, quand on a défini votre mission, votre raison d'être et que vous avez défini les valeurs essentielles dans votre vie professionnelle à titre d'expert dans l'immobilier. Donc, la vision, c'est qu'est-ce que vous souhaitez devenir. La mission, c'est votre raison d'être. C'est souvent la mission qui vous aide à vous rendre vers votre vision. Et les valeurs, moi, c'est ce que j'appelle la culture de l'âme de votre micro-entreprise. Donc, en étant conscient de ces trois éléments, ça va être beaucoup plus facile de venir établir cette valeur dans la relation entre vous, l'expert, votre proposition de valeur et votre clientèle. Ensuite, comment vous allez faire pour vous positionner? Avant, je vais vous définir ce qu'on entend par positionnement. Alors, je suis allée chercher une description dans une de mes lectures ou de mes formations qui venait décrire, qui venait bien décrire ce qu'on entend par le positionnement. Pour moi, le positionnement, c'est comment vous allez faire la différence, comment est-ce que vous allez justement vous démarquer dans votre environnement, envers votre clientèle et envers votre compétition, votre concurrence. Alors, la description, je vous la partage. On parle de positionnement, c'est le résultat des actions destinées à accaparer justement une position précise par rapport aux joueurs concurrents dans votre marché. Donc, c'est la définition du positionnement et comment vous allez faire pour le faire. Ce que je vous propose, c'est d'aller faire ressortir des bénéfices distinctifs qui vous appartiennent, qui vous démarquent, vous, l'unique professionnel de l'immobilier que vous êtes dans votre particularité. Alors, il y a trois bénéfices qu'on peut faire ressortir que je vous donne comme exemple. On a celui qu'on appelle fonctionnel. Donc, le bénéfice fonctionnel a un rapport direct avec votre produit, avec le service de courtage proprement dit. Un exemple, je vous donne des exemples pour chaque bénéfice que je vais vous proposer pour vous positionner. Alors, on peut parler de la notoriété de votre agence immobilière. C'est un exemple parmi tant d'autres, hein? Alors, on pourrait parler de la notoriété de votre agence immobilière qui est un bénéfice fonctionnel qui peut être justement considéré dans votre positionnement, je m'excuse. L'autre bénéfice que vous pouvez utiliser pour vous positionner, pour vous différencier, on va parler d'un bénéfice à caractère expérientiel. Donc, quand on parle expérientiel pour expérimentation, On parle de comment est-ce que vous allez faire vivre l'expérience entre vous, le courtier immobilier, et le client. Alors, quelles sont les actions que vous pouvez prendre, quelles sont les actions qui peuvent rendre, je m'excuse, le processus beaucoup plus agréable pour votre clientèle cible, qui va faire qu'il va se sentir bien encadré, qui va sentir que c'est rassurant de faire les démarches avec vous et que l'expérience, justement, devienne mémorable. Bon, des exemples, ça peut être juste dans l'espace où vous faites la rencontre. Moi, je me souviens, dans le domaine du financement hypothécaire, je rencontrais les clients à mon bureau, presque jamais à la maison. Sauf que l'encadrement que je leur offrais, c'était vraiment agréable, même qu'il y avait un petit espace jeu pour les enfants. Il y avait les petits bonbons, la petite tisane, le petit café, la petite lumière tamisée. Donc, c'était une expérience agréable quand j'invitais les clients à mon bureau. Ça peut être au niveau du plan de match que vous allez lui proposer pour faire sa démarche. Ça peut être l'encadrement que vous allez lui donner, vous allez lui offrir pour préparer la vente de sa maison. Donc, ce sont des exemples qui font partie des bénéfices expérientiels qui viennent justement définir l'expérience que vous allez vouloir faire vivre à votre clientèle cible pour qu'elle devienne mémorable. Troisième bénéfice et le dernier que je vous propose, qu'on appelle plus à titre ou à caractère symbolique, donc qui est davantage relié aux besoins psychologiques des clients. Alors, encore une fois, des exemples, la relation de confiance qui s'insère entre vous et le client, qui va rendre l'expérience satisfaisante, qui va rendre la relation satisfaisante. Alors, ça peut être un besoin pour votre client d'être continuellement ponctuel. Donc, si vous avez l'habitude d'être en retard, par exemple, pour des visites, puis vous avez une clientèle qui est très à cheval sur des principes comme la ponctualité, de faire des suivis rigoureux, par exemple, de se sentir bien représenté durant la démarche. Bon, un exemple bien représenté, si c'est un client acheteur, et c'est un exemple que je vous donne, qui a besoin de savoir que vous le représentez pour négocier son offre d'achat et que finalement, il apprend que vous l'avez envoyé par le courriel à un courtier inscripteur. Je sais qu'on n'a pas toujours le choix, sauf que ça fait partie des bénéfices symboliques pour votre client de savoir que il est bien représenté par le professionnel de l'immobilier qui a décidé de choisir pour faire une des transactions les plus importantes dans sa vie. Donc, trois bénéfices plus des avantages distinctifs, ça vous donne justement l'occasion de pouvoir utiliser assez d'outils, assez de ressources, assez de réflexions pour être capable de définir votre proposition de valeur. Alors voilà, c'était le deuxième bloc, proposition de valeur. Maintenant, on va y aller en rafale avec les autres blocs qui vont demander moins de contenu au niveau de la compréhension. Comme je vous l'ai dit d'entrée de jeu, les deux premiers blocs beaucoup de contenu à venir comprendre, mais c'est aussi les blocs les plus importants au niveau du modèle d'affaires. Troisième bloc, bloc numéro 3, on va parler de canaux de distribution. Alors, c'est relativement simple. La question est quels vont être les moyens de communication et de distribution que vous allez utiliser pour attirer, pour garder votre client, pour maintenir la relation avec votre client. Alors, comment est-ce que vous allez vous y prendre ou qu'est-ce que vous allez utiliser pour offrir justement votre valeur qu'on a déjà définie en bloc numéro 2. Comment est-ce que vous allez entreprendre chaque étape du processus dans la démarche? Donc, il faut comprendre que votre client évolue dans votre parcours et l'image que je vous présente d'ailleurs en diapo et c'est certainement dans votre guide du participant, c'est l'image de l'entonnoir. Donc, c'est souvent véhiculé cette image de l'entonnoir dans les grands principes marketing, plus particulièrement l'Internet marketing, mais je trouve que l'image est très représentative. Ou quand vous attirez votre client cible, bien entendu, votre client cible est un suspect. Ce qu'on cherche à faire dans la démarche, dans le processus, par les canaux de distribution, les canaux de communication que vous allez utiliser, c'est de rendre votre suspect à un contact, que ce contact devienne un prospect, que ce prospect devienne un client potentiel et que ce client potentiel devienne un client pour la vie. Donc, c'est le cheminement dans l'entonnoir, puis en bout de ligne, au bout de l'entonnoir, ce qu'on veut, c'est que votre client reste votre client pour la vie. Donc, entre chaque étape de suspect à contact, de contact à prospect, de prospect à client potentiel, de client potentiel à client pour la vie, qu'est-ce que vous allez utiliser comme canaux de distribution pour garder, pour maintenir la relation? Est-ce que vous allez utiliser une stratégie multicanaux? Est-ce que vous allez utiliser une stratégie web, essentiellement web, parce que en regardant, oups, sur le bloc numéro un, vous regardez votre clientèle cible et votre clientèle cible que vous avez déjà pris soin de venir découvrir, de venir connaître par rapport à ses besoins, par rapport à son tempérament, à sa personnalité. Est-ce que ça va être beaucoup plus par les stratégies web? Est-ce que ça va être par le publipostage, des alliances stratégiques que vous allez créer autour de votre clientèle? Est-ce que ça va être à travers des événements, de la formation, de l'éducation? Est-ce que ça va être un peu tout ça? Alors, ça va devenir définir quelle va être justement la valeur que vous allez apporter à chaque étape pour définir vos canaux de distribution. Déjà, le bloc numéro 4, on parle de relations de clients. Deux grandes réflexions que vous devez définir dans ce bloc. Alors, au-delà du service rendu, que je vends sa maison ou que je lui trouve une propriété, du service rendu proprement dit, pour vous assurer la fidélité de votre client, parce que à un moment donné, votre client est votre client, mais vous allez devoir vous assurer de sa fidélité pour qu'il devienne très rapidement votre ambassadeur. OK? Puis être aussi capable d'en acquérir des niveaux, de fidéliser la clientèle existante, de vous engager et de les engager envers votre service, quelle va être justement la nature de vos relations durant ce processus? Comment est-ce que vous allez faire pour garder et augmenter votre clientèle? C'est dans la relation que vous allez pouvoir définir comment est-ce que vous allez arriver à des résultats du bloc numéro 4. Donc, il y a plusieurs stratégies qui ressemblent d'ailleurs à celles que je viens de vous énumérer de suspect à prospect, à client. Ce qui vaut, c'est que ça vous prend une stratégie de communication pour garder la relation, pour maintenir la relation, pour que justement les clients qui existent restent avec vous, mais que justement ces stratégies de communication dans la relation puissent maintenir et fidéliser votre clientèle. Donc, ça va vous prendre une campagne de communication relationnelle plus que promotionnelle. Donc ici, c'est vraiment axé sur la relation, être capable de pouvoir établir dans le temps, de façon trimestrielle, semestrielle, annuelle, qu'il y ait une planification de communication relationnelle avec la clientèle potentielle ou déjà existante dans votre business. Donc, essayez de voir quels sont les outils que vous allez utiliser pour explorer justement et rejoindre votre clientèle, de venir définir les médias de communication et de pouvoir convertir au fur et à mesure la communication s'installe et que la communication se confirme entre vous et votre suspect, client potentiel, client existant et que vous soyez capable aussi durant cette communication, ces stratégies de communication relationnelle, que vous soyez capable d'interagir, soit personnellement ou virtuellement, et que vous ayez justement dans vos stratégies une façon de pouvoir tenir engagé ou d'aller chercher l'engagement de votre clientèle. Alors, tout ça pour vous dire que ça demande dans le premier bloc une réflexion. Je pense, bon, à mon avis, encore là, mon humble avis, cette première partie du bloc est très importante. C'est la base, c'est la réflexion qui va vous permettre justement de mieux formuler, de mieux, dans le comment dire, de quand le dire, à qui le dire, justement, vous positionner en tant qu'expert qui se différencie et qui fait la différence. Je vous emmène tout de suite dans le cinquième bloc où on parle dans le modèle BMG, on appelle ça flux de revenus, mais moi, je vais appeler ça source de revenus. Alors, source de revenus, bon, on n'a pas des tonnes de sources de revenus, on parle principalement de la rétribution, mais réfléchissez à comment vous allez présenter et justifier vos honoraires, votre rétribution en face de votre clientèle, particulièrement propriétaire-vendeur ou même les acheteurs qui, de plus en plus, on va se servir du contrat de courtage acheteur. Donc, à partir du moment où vous êtes capable de présenter vos honoraires en justifiant la valeur à votre client cible, est-ce que vous allez avoir des forfaits? Est-ce que vous allez avoir des programmes? Est-ce que vous allez avoir des promotions rattachées à votre forfait? Venir justifier, venir identifier, définir avant, au lieu d'être dans la réaction par rapport à votre clientèle cible, va vous donner beaucoup plus d'assurance, beaucoup plus de confiance quand va venir le moment justement d'offrir vos services. Sixième bloc. Alors, on arrive dans l'autre partie du modèle d'affaires. Sixième bloc, on va parler de ressources clés. Alors, quelles vont être les ressources que vous allez avoir besoin pour vous aider à mettre en application votre modèle d'affaires? Avec qui et comment vous allez pouvoir livrer votre promesse? Quelles vont être les ressources immatérielles, humaines, financières que vous allez devoir réunir pour produire, pour mettre en marché votre proposition de valeur? Exemple, allez-vous avoir besoin d'un ordinateur, d'un programme de gestion, d'une ressource humaine pour le service à la clientèle, d'un expert en réseaux sociaux, par exemple, d'une adjointe, de fournisseurs spécialisés dans une stratégie de communication que vous aimeriez utiliser pour promouvoir votre proposition de valeur? Donc, venez identifier d'avance, parce que justement, vous avez fait la réflexion de bloc en bloc, okay, en relation avec le premier bloc qui est votre clientèle cible, c'est beaucoup plus facile d'identifier d'avance vos ressources, ce qui fait que quand vous allez être sur le terrain, hein, vous ne serez pas en mode réaction ou vous ne serez pas retardé ou tout simplement en arrêt de votre progression pour livrer votre promesse. Septième bloc, on parle d'activités clés. Un bloc très important qui vous emmène dans l'action d'ailleurs. Il faut identifier quelles sont les activités les plus importantes, parce qu'on a toujours une tonne d'activités, on a toujours plein d'actions dans notre vie de tous les jours, mais vous allez devoir identifier les activités les plus importantes, les activités prioritaires qui ont un rapport avec votre modèle, votre proposition, le concept de votre modèle d'affaires pour que votre modèle fonctionne. Allez-vous faire de la prospection? Allez-vous faire du développement, du réseautage? Allez-vous faire des conférences, allez-vous faire des vidéos, peu importe, il faut le définir. Le plan de match et les priorités pour réaliser vos objectifs se retrouvent dans vos activités clés. Donc, qui, que, quoi, comment et quand, c'est dans le bloc numéro 7 que vous allez devoir le définir. On arrive dans le bloc numéro 8, les partenaires clés, les alliances stratégiques. Alors, qui sont vos partenaires, les partenaires qui sont clés à votre concept, à votre modèle d'affaires, à votre proposition de valeur, qui rejoint votre clientèle cible pour réaliser votre modèle d'affaires? Alors, est-ce qu'il y a des fournisseurs? Est-ce qu'il y a des développeurs? Est-ce qu'il y a des distributeurs? Est-ce qu'il y a des investisseurs? Est-ce qu'il y a des collaborateurs? Est-ce qu'il y a des associations? Dans l'immobilier, on le sait, hein, on a plein de partenaires autour qui courent après vous pour faire de la business. Donc, c'est pas ça qui manque, de venir identifier vos alliances qui vont pouvoir s'adapter à votre modèle d'affaires en vertu de, en fonction de votre clientèle cible. C'est vraiment un avantage d'avance pour pouvoir livrer votre promesse, pour pouvoir justement vous exposer et faire la différence dans votre modèle d'affaires. Et le dernier bloc, le neuvième, alors et non le moindre, comme on dirait, structure des coûts, bien entendu, hein, pour faire des profits. Ça prend un chiffre d'affaires, mais ça prend aussi une gestion de vos coûts. On va parler, quand on parle dans le bloc numéro 9, on va parler d'investissement. C'est pas nécessairement une dépense réelle, mais plus un investissement qui va vous emmener du rendement. Mais principalement, vous allez devoir venir à travers votre structure de coûts. C'est comme ça que vous allez évaluer justement votre profitabilité, votre rentabilité. Venir voir aussi quand vous investissez, que ce soit dans un plan de communication, dans une stratégie marketing ou dans des outils de travail, de venir voir à travers le modèle sur l'ensemble du modèle, si vous avez des risques, est-ce qu'il y a des inconnus, est-ce qu'il y a une économie d'échelle que vous pourriez aller chercher dans l'ensemble de vos coûts, est-ce qu'il y a des coûts qui sont hors de votre portée parce que c'est une nouvelle expérience, par exemple, ou des nouveaux partenaires, ou des nouvelles alliances. Donc, de pas s'attarder à la structure de coûts, puis vous voyez dans la maquette, dans le canevas, on voit la structure de coûts à côté de la structure des revenus. C'est parce que c'est pour vous rendre à l'évidence, comme je vous le disais d'entrée de jeu au tout début, les revenus moins les dépenses, ça emmène des profits. Vous êtes là pour faire des profits, avoir du plaisir, exceller, se réaliser, s'accomplir, mais ne jamais oublier qu'il faut aussi faire des profits parce que c'est ce qui va faire aussi vos revenus, qui va vous emmener finalement dans votre qualité de vie personnelle. Donc, une dernière chose qu'on nous recommande souvent dans le concept de Business Model Generation, une dernière fois, je vais encore graffiner les oreilles, c'est de venir tester votre modèle. Hein, avant de tout investir, le temps, l'énergie, l'argent, mettez-le en application, mettez-le en perspective, puis venez le tester 3 mois, 6 mois pour voir si c'est quelque chose vraiment qui s'identifie à ce que vous voulez faire avec votre clientèle cible et aux résultats que vous voulez obtenir. Une façon de tester que moi, de façon simple de tester, c'est par exemple, si je travaille dans un territoire géographique, je m'en vais carrément sur le terrain, voir ma clientèle, donc mes propriétaires du secteur géographique, et je m'en vais leur poser des questions par rapport à mon modèle d'affaires. C'est aussi simple, mais en même temps, quelle occasion de venir jaser avec votre monde, mais de jaser, moins de prospecter, mais s'il y a une occasion pour prospecter, pourquoi pas, mais beaucoup plus pour venir découvrir si votre concept, votre modèle d'affaires vient répondre à votre clientèle cible. Souvent, un modèle qui fonctionne pas, selon les spécialistes, les auteurs du concept, on va nous dire que la stratégie AIDA est pas adéquate. La façon qu'on attire l'intérêt, qu'on attire l'attention, qu'on crée de l'intérêt, qu'on veut susciter le désir, puis qu'on veut faire passer à l'action, c'est ça la technique AIDA. J'en parle en marketing ici. Secteur ferme n'est pas adéquate par rapport à l'ensemble de la maquette. Aussi, on nous dit qu'une des raisons pourquoi un modèle d'affaires ne fonctionne pas, on nous dit que les chiffres sont souvent pas assez réalistes. Par exemple, vous voulez faire des gros profits, mais vous ne faites pas en sorte pour investir. Donc, quand on veut faire des gros profits, il faut aussi être capable de comprendre qu'on doit investir dans la business pour justement aller à un niveau supérieur de sa rentabilité. Peut-être que l'environnement est hostile, donc quand on parle dans le plan d'affaires, de venir analyser les tendances, de venir analyser justement l'industrie où on en est rendu, au niveau du secteur, de la clientèle cible, l'exécution de la maquette, du modèle d'affaires n'est pas conforme à une ligne de conduite. C'est une des raisons, selon les experts, pourquoi un modèle fonctionne moins bien. Et comme je vous le mentionnais, une des façons les plus efficaces, d'ailleurs, les experts le recommandent fortement dans tous les domaines. Moi, je l'ai adapté dans l'immobilier, mais dans tous les domaines du monde des affaires, une façon très, très pratique et efficace de venir tester votre modèle, c'est d'aller voir le monde. D'ailleurs, n'est-ce pas ce que vous aimez le plus au monde, d'aller voir le monde? N'est-ce pas ce que vous avez choisi de faire de l'immobilier? C'est parce que vous aimez le monde, donc profitez-en. Allez voir le monde avec votre proposition de valeur, avec votre maquette de travail, avec justement votre proposition de valeur. Puis si vous voyez que ça tire, que les résultats, c'est quelque chose que vous allez sentir dans les réponses, vous allez être capable de pouvoir faire des modifications, vous ajuster, voire évoluer votre modèle d'affaires et jusqu'à finalement avoir un concept qui va vraiment vous distinguer, qui va vraiment vous démarquer, qui va vous appartenir et c'est là qu'on va voir votre couleur et même je dirais votre étoile briller à travers toutes les autres parce que vous allez avoir pris le temps de réfléchir sur votre modèle d'affaires. Et voilà, ça termine notre deuxième module et j'espère que dans cette formation, vous avez trouvé plein de valeur sur le concept du modèle d'affaires pour se vendre. Et j'aimerais terminer cette formation sur une citation que j'ai ici devant moi, que je trouvais qui était vraiment d'à propos. Alors, c'est une citation de Michael Porter. Alors, un grand de ce monde dans le monde des affaires, qui dit « Il n'y a pas de meilleur. En étant en compétition sur le même plan que vos concurrents, vous rendez simplement le choix plus difficile pour vos clients, pour les clients. Alors, vous devez plutôt vous battre pour être unique. L'essence de la stratégie, c'est de découvrir l'avantage qui n'appartient qu'à vous. » Là-dessus, chers professionnels de l'immobilier, immopreneurs, je vous dis merci, merci d'être là, merci d'être le ou la professionnelle de l'immobilier qui contribue à un monde meilleur dans notre industrie et de venir travailler en fonction de viser l'excellence avec intégrité et détermination sur la voie des immopreneurs. Je vous dis merci encore une fois, merci d'être là, je vous souhaite bon succès dans votre modèle d'affaires et j'ai bien hâte de vous revoir très bientôt. Au revoir tout le monde! Well, something got me shaking my